Radio Sputnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
Bonjour monsieur, comment puis-je vous aider?
J'aimerais vendre mes actions.
Même activité fiévreuse à la Bourse de Paris.
La course économique, c'est comme les courses cyclistes, c'est-à-dire qu'il y a des étapes.
Le Japon n'est officiellement plus en récession.
La production industrielle a progressé.
Premier trimestre est mesuré à 0,6%.
L'Arabie Saoudite, l'Irak et l'Iran, c'est 60% des réserves mondiales de pétrole de la planète.
Bonjour et bienvenue à l'antenne de Radio Sputnik pour cette nouvelle édition des Chroniques de Jacques Sapir, mon rendez-vous hebdomadaire avec les auditeurs et auditrices de Sputnik France pour commenter l'actualité économique. Nous avons évoqué, la dernière fois, les politiques d'austérité qui, en Europe, font monter l'euroscepticisme, mais cette question de l'austérité est en fait relativement absente du débat électoral à l'approche du référendum sur le Brexit au Royaume-Uni. En deuxième partie de cette édition consacrée au Brexit, pour éclairer le choix que vont faire les électeurs britanniques, nous posons la question : l'économie britannique peut-elle se passer de l'Union européenne ? Je répondrai à cette question dans une chronique, suivie de la suite de ma conversation avec Dominique Jamais et John Laughlin, puis de deux nouveaux entretiens téléphoniques. Attention au démarrage imminent de la chronique, je vous souhaite une bonne écoute sur Sputnik France.
This deal brings back some welfare powers, it brings back some immigration powers, it brings back some bailout powers, but more than that, because it carves us forever out of ever closer union, it means that the ratchet of the European Court taking power away from this country cannot happen in future. And to those who worry, and people do worry, that in somehow if we vote to remain in, the consequence could be more action in Brussels to try and change the arrangements we have. We have a lock in this House of Commons. No power can be passed from Britain to Brussels without a referendum of the British people. So we have a better deal. We have a special status. We have a chance to make sure we build on what we have. We protect our people. We enhance our prosperity. And that's the choice we should make.
Ed Miliband.
La question se pose donc, l'économie britannique peut-elle se passer de l'Union européenne ? Et en fait, à cette question, on voit très vite que la nature des réponses va dépendre des différents secteurs de l'économie britannique. Si on regarde la question de la finance, évidemment un secteur très important, même s'il est très concentré, et qui pose évidemment le problème aussi du rôle de la City de Londres, on comprend que l'Union européenne n'est absolument pas nécessaire à la vie de ce secteur. Par ailleurs, quand bien même la Grande-Bretagne ne ferait pas partie de l'Union européenne, les différentes entreprises et les différentes banques de l'Union européenne continueraient de venir à la City. C'était d'ailleurs la situation qui avait lieu avant même que la Grande-Bretagne ne rejoigne la communauté économique européenne dans les années 70. Donc, on voit bien que de ce point de vue-là, le rôle de la City serait très peu modifié par une sortie de l'Union européenne de la part de la Grande-Bretagne. Et d'une certaine manière, les menaces soulevées par notre ministre de l'économie, M. Emmanuel Macron, qui voudrait d'une certaine manière faire venir les banques à Paris, n'a pas réellement de réalité. Sur les questions industrielles, le point est un petit peu plus important, car il faut savoir que depuis 5 à 6 ans, on assiste au début d'une réindustrialisation de la Grande-Bretagne. Comment s'explique-t-elle ? Eh bien, essentiellement parce que la Grande-Bretagne a conservé la maîtrise de sa monnaie, elle a fortement dévalué la livre sterling par rapport à l'euro, et cette dévaluation a redonné une compétitivité tout à fait remarquable à l'industrie britannique. Mais l'industrie britannique a-t-elle besoin en tant que telle de l'Union européenne, ou pourrait-elle se contenter en fait de traités de libre-échange qui uniraient les pays de l'Union européenne à la Grande-Bretagne? La réponse est plutôt dans la deuxième direction, et on voit bien que à ce niveau-là, l'industrie britannique n'a pas réellement besoin de l'Union européenne. On se rappelle d'ailleurs que lors du lancement du programme Airbus, un programme qui a été soutenu par les gouvernements français et allemands, qui n'est pas du tout un programme qui a été impulsé par l'Union européenne ou par la communauté économique européenne, et dans lequel des industriels privés britanniques se sont joints, eh bien, quand le programme a été lancé, la Grande-Bretagne ne faisait pas partie de la communauté économique européenne. Et donc, d'une certaine manière, on voit bien que ce programme n'est nullement lié à des institutions européennes. Le dernier point, c'est évidemment l'ampleur de l'économie de services. Et cela pose la question de savoir, mais quels sont les services qui sont exportés ou importés en provenance de l'Union européenne. Et on voit bien que le secteur des services, qui est très important en Grande-Bretagne, eh bien c'est un secteur qui est essentiellement national. Le seul service par rapport auquel les Britanniques peuvent avoir des relations avec des pays de l'Union européenne, eh bien c'est le tourisme. Or, en ce qui concerne le tourisme, la principale variable, c'est bien entendu le taux de change entre la livre sterling et les monnaies de l'Union européenne, les autres monnaies de l'Union européenne. Donc on voit que là non plus, il n'y aura pas de conséquences dans une éventuelle sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Ce qui, à ce moment-là, pose évidemment la question de savoir, mais pourquoi les grandes entreprises britanniques prennent-elles, les unes après les autres, tellement position contre l'idée de cette sortie, contre l'idée d'un Brexit? Alors, à cette question, il y a malheureusement une réponse qui est plus politique qu'économique. On voit bien qu'il y a une pression qui est exercée par les éléments pro-européens du gouvernement, et en particulier par David Cameron, sur ces industries, qui leur dit « Mais écoutez, soutenez ma campagne pour que la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne. Dites à vos ouvriers, dites à vos employés qu'ils feraient une erreur en votant pour que la Grande-Bretagne sorte de l'Union européenne. » Ceci pose évidemment la question des relations entre l'économie et la politique. Et voilà qui va nous amener à un autre problème, qui est la question des politiques d'austérité. On sait que le gouvernement Cameron a mené et continue de mener une politique d'austérité qui est d'ailleurs assez mal vécue par une partie du peuple britannique et qui soulève toute une série de problèmes, en particulier dans la remise en cause du système national de santé, le NHS, qui, bien entendu, est très important pour les Britanniques les moins riches, pour les classes populaires. Alors, il est très clair que cette politique d'austérité n'est pas directement liée à l'Union européenne. Elle est en réalité un choix fait par David Cameron. Mais si la Grande-Bretagne restait dans l'Union européenne et si elle était amenée à accepter des formes d'intégration politique de plus en plus importantes, alors, à ce moment-là, elle ne pourrait plus faire machine arrière par rapport à ses politiques d'austérité. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que par rapport à cette question des politiques d'austérité, la question de l'appartenance ou non à la zone euro, voire à l'Union européenne, joue en réalité comme un mécanisme qui empêche un pays, une fois qu'il s'est engagé dans des politiques d'austérité, de sortir de ces politiques d'austérité. Et en réalité, on voit que la question, alors qui ne concerne pas la Grande-Bretagne, qui est la question de l'euro, mais aussi la question de l'Union européenne et qui, elle, concerne la Grande-Bretagne, joue essentiellement quant à la liberté de choix politique des électeurs par rapport à des politiques d'austérité. Et de ce point de vue-là, il faut ici essayer de ramener la question de la Grande-Bretagne à un autre pays, c'est la Suède. Et on voit que la Suède, qui avait refusé l'euro, a mené une politique relativement contradictoire à la politique d'austérité qui se développe aujourd'hui sur la France, l'Italie, l'Espagne, mais qui se développe aussi d'une autre manière en Allemagne, mais que aujourd'hui, cette politique qui d'ailleurs a donné de très beaux succès en Suède, puisque le taux de croissance de la Suède, rappelons-le, est supérieur à 3,5%, alors que le taux de croissance de la France est de l'ordre de 1,1 ou 1,2% pour 2015. Bref, ce succès tout à fait évident de la politique économique en Suède, il va être remis en cause par toute une série de réglementations européennes. Et donc, on voit bien que à un moment donné, même si la politique d'austérité n'a pas été directement voulue et directement mise en place du fait de l'Union européenne, la question qui se pose pour un pays de sortir de cette politique d'austérité, elle, est très largement liée à sa souveraineté et à sa capacité, à un moment donné, de dire « Non, nous ne voulons pas appliquer l'ensemble des mesures, l'ensemble des directives qui ont été prises dans l'Union européenne.
Oui, je viens de Grande-Bretagne et je fais mes études ici à Paris. Et je ne vais pas voter pour ou contre le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, parce que le Royaume-Uni, de toute manière, ça restera une économie hyper mondialisée et que la politique d'austérité et de privatisation au Royaume-Uni, elle n'est pas imposée par l'Union européenne. Donc ça me paraît vraiment être un faux débat. Et ce qui est central, c'est la question des coupes budgétaires et de l'austérité au Royaume-Uni. Oh, mais on a vu dans les décisions prises par le gouvernement Cameron récemment, avec la déréglementation du travail, les contrats zéro heure, dans les jours qui ont précédé, la question des allocations dédiées aux handicapés. Ce qui est très étonnant là-dedans, surtout maintenant que je le vois plus que maintenant que je vis en France, c'est que on présente souvent au Royaume-Uni l'Union européenne comme étant une espèce d'empire de réglementation presque socialiste, alors qu'évidemment aux yeux des autres peuples européens, c'est pas du tout le cas, c'est même plutôt le contraire. Je pense qu'effectivement l'ascension de Jeremy Corbyn à la tête du Labour, c'est beaucoup plus important, et c'est ça qui déterminera bien davantage l'avenir du Royaume-Uni que la question de l'appartenance ou non à l'Union européenne. Les franges, je pense pas que ces franges-là de gauche radicale, qui sont assez minoritaires, auront une importance particulièrement prégnante dans ce choix-là. Je persiste à dire que je pense que c'est vraiment un faux débat, et j'espère et je pense que beaucoup de Britanniques ne sont pas dupes. Oui, je n'appelle à rien, mais moi je sais que je ne vais pas voter, et je pense tout simplement, en regardant la situation sociale et politique du pays, je pense que ça ne correspond pas vraiment aux préoccupations des Britanniques. Le problème, c'est l'accroissement des inégalités, c'est le nombre de gens qui doivent avoir recours aux food banks, aux banques alimentaires, c'est le problème de l'extrême précarité et de la faiblesse du salaire minimum.
Merci beaucoup, chers auditeurs, pour votre attention. Nous poursuivons cette édition des Chroniques de Jacques Sapir, consacrée au débat sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, ce que l'on appelle le Brexit, avec deux invités qui sont en studio, John Laughland, philosophe et historien britannique, directeur d'études à l'Institut pour la démocratie et la coopération, et Dominique Jamais, journaliste, écrivain et vice-président du parti Debout la France, connu dans notre pays pour ses positions eurosceptiques. Alors, John, je pense que vous avez relevé la boutade. Est-ce que c'est vraiment une boutade du ministre des Affaires étrangères britannique, Philip Hammond, qui a déclaré que seule la Russie a intérêt à ce que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous lui répondez?
C'est totalement stupide. C'est non seulement stupide et faux. Je m'étonne d'autant plus que cet argument selon lequel ça serait le méchant monsieur Poutine qui souhaiterait la désagrégation de l'Union européenne est un argument qui est utilisé par les forces les plus fédéralistes au sein de l'Union européenne, et notamment par l'ancien Premier ministre belge, aujourd'hui député européen, Guy Verhofstadt, qui lui aussi dit la même chose en permanence. Alors que Monsieur Hammond, le ministre britannique, est censé ne pas être fédéraliste, il est censé être un conservateur britannique qui, soi-disant, aurait préservé un peu la souveraineté britannique dans cette affaire. Donc, mais voilà qu'il s'aligne en fait sur une position qui est totalement fédéraliste et qui, surtout, est totalement fausse. La Russie n'a ni intérêt ou pas d'intérêt. C'est sa position, je crois, sur la question est totalement ouverte. Elle a réussi au fil des années à nouer de meilleurs rapports effectivement avec les États européens sur le plan bilatéral, cela est vrai, et que le blocage entre bien avant la nouvelle guerre froide qui a éclaté l'an dernier sur l'Ukraine existait déjà au niveau européen précisément et non pas au niveau bilatéral. Mais de là à dire que Moscou souhaite un démantèlement de l'Union européenne, c'est de la pure fantaisie. Et ce ministre, hélas, s'est fait connaître maintenant pour une série de sortie comme ça d'une russophobie extrême et bien sûr regrettable.
En réalité, l'organisme qui serait confronté à des problèmes, le cas échéant, avec la Russie, c'est l'OTAN, c'est pas l'Union européenne. Et il n'est pas du tout question pour la Grande-Bretagne de vouloir quitter l'OTAN.
Bien sûr que non.
Oui. Dominique Jamais.
En tant que Français, je dirais quand même qu'à l'heure actuelle, s'il y a des structures qui font obstacle à une politique d'entente ou à une politique d'accord, tout simplement, avec la Russie, ce sont quand même bel et bien les structures européennes et la structure politico-militaire de l'OTAN. Pour ce qui concerne, mais ça n'est pas le sujet du jour, pour ce qui concerne les rapports de la France et de la Russie, aussi bien au long de notre histoire que peut-être dans le futur, ça n'est pas par l'intermédiaire d'une structure supranationale qu'ils peuvent se développer et devenir excellents, mais de façon bilatérale.
Alors, John, maintenant, revenons à cette idée d'Europe à la carte qui, d'une certaine manière, est défendue par les partisans de la sortie de la Grande-Bretagne et qui se détache de cette possibilité d'un accord. Bon, on sait aussi que c'est la position qu'a défendue David Cameron lors du dernier accord, dit l'accord anti-Brexit, qu'il a obtenu à Bruxelles. Est-ce que le Royaume-Uni a réellement trouvé le moyen de préserver sa souveraineté sans sortir de l'Union européenne dans le cadre de cet accord? Et fondamentalement, est-ce que la question, il y a une question dans ma question, mais est-ce que la question de fond, la question dont personne ne veut parler, mais qui est bien la question centrale, c'est bien la question de la souveraineté britannique en réalité?
Il n'y a bien évidemment aucune souveraineté britannique ni française au sein de l'Union européenne. Elle n'a absolument pas été préservée par David Cameron, contrairement à ce qu'il affirme. Je voudrais signaler à vos auditeurs que le ralliement à la cause du Brexit par le Lord Chancellor, le ministre de la Justice, Michael Gove, est très symbolique à cet égard, parce qu'à aucun moment, même dans ses négociations avec ses interlocuteurs européens, David Cameron n'a posé la question de la suprématie de la loi européenne sur les lois nationales. Or, tout le monde sait que, bien évidemment, dès qu'une directive européenne est votée, eh bien, elle a un effet direct dans tous les pays membres. Alors que la question de la souveraineté, cela revient, bien sûr, au pouvoir législatif et à la possibilité de faire la loi chez soi. Eh bien, ce pouvoir n'existe pas au Royaume-Uni et n'existe pas non plus en France ou dans tous les autres pays de l'Union européenne. Donc, la question principale, la question de la souveraineté, n'a absolument pas été abordée dans ces discussions.
C'est quand même une leçon de démocratie, d'une certaine manière, que nous donnent les Britanniques, qui admettent que quand il y a un débat de cette importance, eh bien, ce débat peut effectivement traverser le gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez, Dominique ?
C'est évident, et les Britanniques vont nous donner deux fois une leçon de démocratie. La première leçon, c'est tout simplement de consulter un peuple sur quand même des options fondamentales, tout simplement. L'Angleterre est un tournant, est un croisement. Elle a quand même, il faut bien le dire, comparativement à la France, c'est très bien pour la Grande-Bretagne, c'est un peu désolant pour nous, l'Angleterre a quand même conservé le contrôle de ses frontières, de sa monnaie, de son budget. C'est une grosse différence avec la France. Ce qui est proposé aux Britanniques, c'est de reprendre totalement leur liberté et de faire effectivement, de prendre leur distance avec l'Union européenne, de ne plus être soumis aux décisions d'une commission, éventuellement d'un parlement, de cours de justice étrangères. C'est une voie, vous le savez bien, que nous souhaitons voir suivre à la France, mais la France a beaucoup plus de chemin à faire que la Grande-Bretagne, c'est incomparable. Et la deuxième leçon, c'est naturellement, en effet, sur une question aussi importante, la liberté de choix, la liberté de vote qui est laissée aux membres d'un même parti politique. On voit bien qu'en France, quelle que soit la question, si négligeable ou si importante qu'elle soit, on a perdu l'habitude de la démocratie. Et lorsqu'il s'agit soit de questions de conscience, de questions de société, soit lorsqu'il s'agit de questions comme celle en ce moment du droit du travail ou choses comme ça, les gouvernements et les majorités s'accrochent à l'idée qu'il ne faut en aucun cas laisser la moindre liberté de vote, la moindre liberté de manœuvre aux ministres ou aux députés. Et c'est quelque chose qui me paraît assez contraire à ce que devrait être le fonctionnement d'une démocratie.
Eh bien, écoutez, Dominique, John, je vous remercie beaucoup. Merci.
Merci.
J'ouvre maintenant la partie magazine de notre émission avec Coralie Delhomme. Coralie Delhomme est l'auteur du livre « Les États des Unis d'Europe », mais c'est aussi l'auteur d'un blog qui est reconnu, « La Reine Nue ». Coralie Delhomme est au téléphone. Bonjour Coralie.
Oui, bonsoir.
J'ai une première question pour vous, qui est une spécialiste de l'Union européenne. Les responsables britanniques, à Bruxelles, ont fait de l'acte unique européen leur cheval de bataille au milieu des années 1980. Quel est donc le tournant pris par la construction européenne qui déplaît aujourd'hui tant aux Britanniques et de quand date-t-il ?
Disons que voyant que cette thématique fonctionne dans l'opinion, bien sûr, il y a des leaders politiques qui se saisissent de ce cheval de bataille, sachant que c'est quand même relativement porteur. Disons que voyant que cette thématique fonctionne dans l'opinion, bien sûr, il y a des leaders politiques qui se saisissent de ce cheval de bataille, sachant que c'est quand même relativement porteur.
David Cameron est-il confiant dans sa capacité à convaincre l'opinion publique britannique de la nécessité de rester dans l'Union européenne, ou bien est-il en train de jouer à ce que Hubert Védrine a qualifié de « roulette russe » avec justement cette question ?
Ah si, bien sûr, c'est ça, parce que il y a peut-être quelques raisons économiques, parce que, comme l'explique un certain nombre d'opposants, un certain nombre d'hommes politiques, notamment conservateurs, qui militent pour le Brexit, si jamais il y a de nouveaux chaos en zone euro, ça peut avoir des répercussions sur l'économie britannique. Mais c'est surtout, je pense, une question politique, parce que les Anglais ont une longue tradition de démocratie parlementaire et qui colle mal avec l'idée d'inclusion fédérale. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils se tiennent à côté de toutes les entreprises de type fédéral qui peuvent surgir dans l'Union européenne. Ils ont quand même une adhésion très 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 à la carte, très distante. C'était surtout une façon pour lui d'être réélu. Et aujourd'hui, dans les rangs conservateurs, par exemple, si on prend le cas de Boris Johnson, c'est également un peu du calcul, son positionnement, parce que c'est un rival de Cameron depuis très longtemps. Et pour une bonne part, je pense qu'il espère lui succéder si jamais l'Angleterre vote pour le Brexit. Et il espère être un peu le chef de file de ce courant-là au sein du Parti conservateur et que ça lui assure un avenir. L'Union européenne, elle est traversée de plusieurs crises désormais et il y a la tentation pour un pays qui est déjà moins impliqué que les autres de prendre le large rapidement. On voit bien que, ne serait-ce que dans le rapport à la France, sur l'affaire des migrants, c'est compliqué, même si ça n'a rien à voir avec Schengen, puisque les accords qui régissent les migrations entre la Grande-Bretagne et la France, ce sont des accords bilatéraux. Ce sont les accords du Touquet. C'est pas Schengen, mais malgré tout, la crise de l'euro, plus la crise des migrants, plus ceci, plus cela, ça les incite à prendre le large d'autant plus rapidement.
Donc Brigitte Granville, professeure d'économie à l'Université de Londres, Queen Mary. Mon inquiétude sur le Brexit, donc surtout avec les événements de Bruxelles qui va sûrement donner pas mal de voix. L'argument des gens qui sont en faveur du Brexit, c'est de dire que de quitter l'Union européenne signifie que la Grande-Bretagne n'aura plus à payer les 13 milliards qu'ils payent en ce moment. Mais enfin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils contribuent, leur contribution nette, c'est environ, 8,5 milliards. Hein, et ça représente à peu près 7% des dépenses sociales. Donc certainement, à l'intérieur du Parti conservateur, beaucoup prétendent que les économies qui seront faites en quittant l'Union européenne pourra être reporté plus directement sur les citoyens britanniques. Mais bon, le problème, c'est qu'effectivement, ils ne quantifient pas tous les problèmes externes que ça va poser.
Nous achevons à présent cette édition en deux parties des Chroniques de Jacques Sapir, où nous avons traité des questions de savoir comment comprendre le succès de l'idée de Brexit et si l'économie britannique pouvait se passer de l'Union européenne. Je remercie tous mes collaborateurs, à savoir Marc-Laurent Turpin à la réalisation, Mourad Azri au montage et à l'habillage, Clément Détry à la rédaction, une production d'Hécagone pour Spoutnik France. À mardi prochain, 18h, pour une prochaine édition.
Radio Spoutnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.